Mais qu'est-ce que je vois?
Peut-être un message. Faites vos éclairs vous-même. Nous, on aimerait aller à la plage. Quelle toupie!
Les bourgeois n'ont jamais rien inventé!
Les bourgeois!
Attends. Je voudrais te demander un truc. C'est pas très normal.
On s'en fout d'être normal.
Does it make you remember anything?
Mais j'ai bien compris, hein, bien compris. Tu me prends et tu me jettes comme un vieux mouchoir.
Pourquoi vous n'avez pas donné plus d'explications?
Celui qui parle vraiment sent s'imprimer sur sa langue le goût aigu du piment et la douceur de la mangue.
C'est bon, tu l'as assez, range ton cahier.
À rebrousse-poil, quelques pas d'exploration documentaire.
T'as pas l'air content d'être au monde, t'as le minois tout chiffonné. Pourtant, tu devrais rire aux anges, avec ton linge enfariné, pour engraisser Monsieur Morange. Fais dodo, cola mon petit frère, fais dodo, mon petit loupio. On fera ton éducation, ça m'étonnerait pas qu'on t'achète les mémoires du roi des cons pour engraisser Monsieur Hachette. T'auras pas le phylloxéra.
Joseph Jacotto, professeur de littérature française, fut amené à enseigner le français à des étudiants flamands. Joseph Jacotto, de son côté, ignorait totalement le hollandais. Les étudiants ignoraient le français. Il n'existait donc point de langue dans laquelle il peut les instruire. Il voulut pourtant tenter l'expérience. Pour cela, il fallait établir entre eux et lui le lien minimal d'une chose commune. Or, il se publia en ces temps-là à Bruxelles une édition bilingue de Télémaque. La chose commune était trouvée. Il fit remettre le livre aux étudiants par un interprète et leur demanda d'apprendre le texte français en s'aidant de la traduction. Quand ils eurent atteint la moitié du premier livre, il leur fit dire de répéter sans cesse ce qu'ils avaient appris et de se contenter de lire le reste pour être à même de le raconter. C'était là une solution de fortune, mais aussi à petite échelle une expérience philosophique. L'expérience dépassa son attente. Il demanda aux étudiants ainsi préparés d'écrire en français ce qu'ils pensaient de tout ce qu'ils avaient lu. Ils s'attendaient à d'affreux barbarismes, à une impuissance absolue.
Comment, en effet, tous ces jeunes gens privés d'explications auraient-ils pu comprendre et résoudre les difficultés d'une langue nouvelle pour eux? Il fallait voir où les avait conduits cette route ouverte au hasard. Combien ne fut-il pas surpris de découvrir que ces élèves, livrés à eux-mêmes, s'étaient tirés de ce pas difficile? Ne fallait-il donc plus que vouloir pour pouvoir? Tous les hommes étaient-ils donc virtuellement capables de comprendre ce que d'autres avaient fait et compris? Jusque-là, il avait cru ce que croient tous les professeurs consciencieux, que la grande affaire du maître est de transmettre ses connaissances à ses élèves pour les élever par degrés vers sa propre science. Il savait, comme eux, qu'il faut leur éviter ces chemins de hasard où se perdent des esprits encore incapables de distinguer l'essentiel de l'accessoire et le principe de la conséquence.
Bref, l'acte essentiel du maître était d'expliquer, de dégager les éléments simples des connaissances et d'accorder leur simplicité de principe avec la simplicité de fait qui caractérise les esprits jeunes et ignorants. Enseigner, c'était d'un même mouvement, transmettre des connaissances et former des esprits en les menant, selon une progression ordonnée, du plus simple au plus complexe. Ainsi l'élève s'élevait-il dans l'appropriation raisonnée du savoir, Ainsi, l'élève s'élèverait-il aussi haut que sa destination sociale le requérait, et était-il préparé à en faire l'usage convenant à cette destination ?
Ainsi raisonnent tous les professeurs consciencieux. Ainsi avait raisonné et agi Joseph Jacotot en 30 ans de métier. Or, voilà que le grain de sable venait par hasard de s'introduire dans la machine.
Il n'avait donné à ses élèves aucune explication sur les premiers éléments de la langue.
Il ne leur avait pas expliqué l'orthographe et les conjugaisons.
Les élèves avaient cherché seuls les mots français correspondant aux mots qu'ils connaissaient et les raisons de leur désinence.
Ils avaient appris seuls à les combiner pour faire à leur tour des phrases françaises, des phrases dont l'orthographe et la grammaire devenaient de plus en plus exactes à mesure qu'ils avançaient dans le livre. Les explications du maître étaient-elles donc superflues, ou si elles ne l'étaient pas, à qui et à quoi étaient-elles donc utiles ?
Fais dodo, que là, mon petit frère, fais dodo, mon petit loupio.
Rangez vos affaires.
T'auras plus tard ta limousine pour
engraisser
monsieur Peugeot. Alors t'achèteras de la benzine pour engraisser monsieur S.O. T'auras ton coin de serre-polaire. On t'y permettra les culbutes avec ta tante et ton duvet. Pour engraisser monsieur la hutte. Fais dodo, cola mon petit frère. Fais dodo, mon petit loupio. T'auras beau crier les fachos et les canons, c'est dégueulasse. Un jour, pas de pilier d'eau, on te dira de prendre en chasse. Tu feras la guerre à ceux en face. Vous vous offrirez des brûlons pour engraisser monsieur Douglas, pour engraisser monsieur Dassault. Fais dodo, comme mon petit frère. Fais dodo.
Les paroles que l'enfant apprend le mieux, celles dont il pénètre le mieux le sens, qu'il s'approprie le mieux pour son propre usage, ce sont celles qu'il apprend sans maître explicateur, avant tout maître explicateur. Ce que tous les enfants d'hommes apprennent le mieux, c'est ce que nul maître ne peut leur expliquer, la langue maternelle.
Si vous demandez à des parents selon quelle méthode ils ont appris à parler à leur enfant, ils vous regarderont étonnés, comme s'il pouvait y avoir deux façons d'enseigner le langage. Comme s'il pouvait même exister une façon d'enseigner le langage. Il y a seulement une façon, pour l'enfant, d'apprendre à parler. C'est le processus de tâtonnement expérimental.
On leur parle et l'on parle autour d'eux. Ils entendent et retiennent, imitent et répètent, se trompent et se corrigent, réussissent par chance et recommencent par méthode. Et à un âge trop tendre pour que les explicateurs puissent entreprendre leurs instructions, les enfants sont à peu près tous, quel que soit leur sexe, leur condition sociale et la couleur de leur peau, capables de comprendre et de parler la langue de leurs parents.
Or, voici que cet enfant, qui a appris à parler par sa propre intelligence et par des maîtres qui ne lui expliquaient pas la langue, commence son instruction proprement dite.
N'oubliez pas l'écriture, surtout très lisible. L'orthographe, n'hésitez pas à vous relire. Et essayez d'insister sur votre expérience. Pour ceux qui ont eu de bons résultats au CAP, n'hésitez pas à les mentionner.
Tout se passe maintenant comme s'il ne pouvait plus apprendre à l'aide de la même intelligence qui lui a servi jusqu'alors. Comme si le rapport autonome de l'apprentissage à la vérification lui était désormais étranger. Entre l'un et l'autre, entre l'apprentissage et la vérification, une opacité s'est maintenant établie. Il s'agit de comprendre.
Et ce seul mot jette un voile sur toute chose. Comprendre est ce que l'enfant ne peut faire sans les explications d'un maître.
Si vous êtes capable de suivre ce que j'ai expliqué, c'est déjà pas mal. Et ça vous permettra peut-être d'éviter de vous inscrire tout de suite au chômage.
L'explication n'est pas nécessaire pour remédier à une incapacité à comprendre. C'est au contraire cette incapacité qui est la fiction structurante de la conception explicatrice du monde.
C'est l'explicateur qui a besoin de l'incapable, et non l'inverse. C'est lui qui constitue l'incapable comme tel.
Expliquer quelque chose à quelqu'un, c'est d'abord lui démontrer qu'il ne peut pas le comprendre par lui-même. Avant d'être l'acte du pédagogue, l'explication est le mythe de la pédagogie. La parabole d'un monde divisé en esprit savant et esprit ignorant, esprit mûr et immature, capable et incapable, intelligent et bête. Le tour propre à l'explicateur consiste en ce double geste inaugural. D'une part, il décrète le commencement absolu, c'est maintenant seulement que va commencer l'acte d'apprendre. D'autre part, sur toutes les choses à apprendre, il jette ce voile de l'ignorance qu'il se charge lui-même de lever. Jusqu'à lui, le petit homme a tâtonné à l'aveuglette, à la devinette. Il va apprendre maintenant. Il entendait des mots et les répétait. Il s'agit de lire maintenant, et il n'entendra pas les mots s'il n'entend les syllabes s'il n'entend les lettres, que ni le livre ni ses parents ne sauraient lui faire entendre, mais seulement la parole du maître.
Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui? Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui? J'ai appris qu'il ne faut mentir jamais, qu'il y a des bons et des mauvais, que je suis libre comme tout le monde, même si le maître parfois me gronde. C'est ça qu'on m'a dit à l'école, papa, c'est ça qu'on m'a dit à l'école. Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui? Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui? Que les gendarmes sont mes amis et tous les juges très gentils, que les criminels sont punis pourtant, même si on se trompe de temps en temps. C'est ça qu'on m'a dit à l'école, papa, c'est ça qu'on m'a dit à l'école. Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui? Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui? Le gouvernement doit être fort, a toujours raison et jamais tort. Nos chefs sont tous très forts en thème et en élit toujours les mêmes. C'est ça qu'on m'a dit à l'école, papa, c'est ça qu'on m'a dit à l'école. Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui? Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui? J'ai appris que la guerre n'est pas si mal, qu'il y en a des grandes et des spéciales, qu'on se bat souvent pour son pays, et peut-être j'aurai ma chance aussi. C'est ça qu'on m'a dit à l'école, papa, c'est ça qu'on m'a dit à l'école.
Le mythe pédagogique, disions-nous, divise le monde en deux. Il faut dire plus précisément qu'il divise l'intelligence en deux. Une intelligence inférieure et une intelligence supérieure. La première, l'intelligence inférieure, enregistre au hasard des perceptions, retient, interprète et répète, empiriquement, dans le cercle étroit des habitudes et des besoins. C'est l'intelligence du petit enfant et de l'homme du peuple. La seconde, l'intelligence supérieure, connaît les choses par les raisons. Elle procède par méthode, du simple au complexe, de la partie au tout. C'est elle qui permet au maître de transmettre ses connaissances, en les adaptant aux capacités intellectuelles de l'élève, et de vérifier que l'élève a bien compris ce qu'il a appris. Tel est le principe de l'explication. Tel sera désormais pour Jacques Otto le principe de l'abrutissement.
L'abrutisseur n'est pas le vieux maître obtus qui bourre le crâne de ses élèves de connaissances indigestes, ni l'être maléfique pratiquant la double vérité pour assurer son pouvoir et l'ordre social. Au contraire, il est d'autant plus efficace qu'il est savant, éclairé et de bonne foi. Plus il est savant, plus évidente lui apparaît la distance de son savoir à l'ignorance des ignorants. Plus il est éclairé, plus lui semble évidente la différence qu'il y a entre tâtonner à l'aveuglette et chercher avec méthode. Avant tout, dira-t-il, il faut que l'élève comprenne. Et pour cela, qu'on lui explique toujours mieux. Tel est le souci du pédagogue éclairé. Le petit comprend-il? Il ne comprend pas. Je trouverai des manières nouvelles de lui expliquer, plus rigoureuses dans leurs principes, plus attrayantes dans leur forme, et je vérifierai qu'il a compris.
Que tu t'y prennes gentiment ou de force ou d'une façon directive ou non directive ou tout ce que tu veux, dans la mesure où tu veux faire passer les mêmes choses, à la limite, je dirais que les profs les plus dangereux, ce sont ceux qui en ont pas l'air, enfin. C'est très évident, bon, actuellement, dans un certain contexte, que le type qui prendrait une règle pour taper sur les mômes comme avant, comme à la façon dont j'ai reçu l'enseignement, moi, il se fait tout de suite traiter de salaud, quoi. Mais celui qui s'y prend avec beaucoup plus de doigté, avec beaucoup plus de gentillesse et tout ça dans le jeu, etc., dans la mesure où il fait passer les mêmes choses, c'est pire, même.
Aujourd'hui, notre caméra s'immisce dans un cours moyen à pédagogie rénovée. Ici, les jeunes enfants doivent apprendre, selon les termes de notre ministre de l'Éducation, à ne pas dissocier liberté et solidarité, spontanéité et respect des règles, sincérité et politesse, effort et joie. Le maître, jeune, décontracté, dynamique, crée à l'intérieur de sa classe un style de relations humaines assez sécurisante et assez ouverte pour donner aux enfants la possibilité de se développer, de se discipliner et de s'épanouir. Le matin, français et maths. Les enfants sont répartis dans des groupes de niveau. Les plus faibles sont soutenus pour rattraper leur retard. Les plus faibles sont soutenus pour rattraper leur retard. Les plus faibles sont soutenus pour rattraper leur retard.
De temps d'enfermement s'agrandissent les plaies. De temps d'enfermement s'agrandissent les plaies, nous sortent de nouveaux orifices béants, laissant parler les vents, laissant sentir les vents. Oh, qui nous manque tant, oh, qui nous manque tant. Comme on apprend si vite à faire semblant. Oh, il grossit, il dévore, ne dit jamais son nom, mais ça gronde au-dedans, ça crie énormément. Un moteur qui reste sur place ne s'en va pas. Qu'est-ce que ça fait là, ça empoisonne tout l'espace. C'est une coulure acide, stagnante, qui enterre vos actions, paralyse nos membres, neutralise même les flocons de décembre. Dans quel état ce train-là va nous laisser? Ce train d'enfermement, les premiers mouvements. de temps, d'autant que de temps d'enfermement, d'autant que de temps d'enfermement. Ce train d'enfer, ce train d'enfermement, ce train d'enfermement comme un arracheur de dents.
Il faut que l'élève comprenne, et pour cela qu'on lui explique toujours mieux. Tel est le souci du pédagogue éclairé. Le petit comprend-il ? Il ne comprend pas. Je trouverai des manières nouvelles de lui expliquer, plus rigoureuses dans leurs principes, plus attrayantes dans leur forme, et je vérifierai qu'il a compris.
Noble souci. Malheureusement, c'est justement ce petit mot, ce mot d'ordre des éclairés, comprendre, qui fait tout le mal. C'est lui qui arrête le mouvement de la raison, détruit sa confiance en elle-même, la met hors de sa propre voie, en brisant en deux le monde de l'intelligence.
Tout faire comprendre, cette grande préoccupation des méthodistes et des progressistes, est un progrès dans l'abrutissement. L'enfant qui ânonne sous la menace des coups obéit à la férule, et voilà tout. Il appliquera son intelligence à autre chose.
Mais le petit expliqué, lui, investira son intelligence dans ce travail du deuil. Comprendre, c'est-à-dire comprendre qu'il ne comprend pas si on ne lui explique pas. Ce n'est plus à la férule qu'il se soumet, c'est à la hiérarchie du monde des intelligences.
Pour le reste, il est tranquille comme l'autre. Si la solution du problème est trop difficile à chercher, le maître est vigilant et patient. Il verra que le petit ne suit plus, il le remettra dans le chemin en lui réexpliquant. Ainsi, le petit acquiert-il une intelligence nouvelle, celle des explications du maître. Plus tard, il pourra être explicateur à son tour, il possède l'équipement. Mais il le perfectionnera, il sera homme de progrès.
Monsieur le ministre, je vous présente une bonne élève. Eh oui, une excellente élève. Elle travaille très très bien en classe, j'ai vu ses notes. Et elle adore le français, elle voudrait vous poser une question à ce sujet.
S'il vous plaît, monsieur le ministre, est-ce que le lycée c'est plus facile ou c'est plus difficile que l'école primaire ?
Est-ce que les...
Le lycée c'est plus facile ou plus difficile que l'école primaire ?
Bien, c'est nécessairement un peu plus difficile parce que vous avez grandi, vous êtes plus malin, vous pouvez mieux comprendre certaines choses. Et puis, tu sais, pour être un citoyen de l'an 2000, une citoyenne de l'an 2000, vous serez tous en l'an 2000 responsables d'une famille, vous vivrez. Il faudra savoir des choses. Et il faudra comprendre ce qu'on vous dit à la télévision, il faudra comprendre ce que vous lisez dans les journaux, il faudra comprendre ce que vous voyez sur les affiches, etc. Et tout ça n'est pas facile. Il faut donc apprendre un certain nombre de choses pour pouvoir comprendre cette information.
La jeunesse d'aujourd'hui représente l'avenir de l'Occident.
Nous devons bien dire que le contenu de l'enseignement, et ceci nous a même beaucoup interrogés à ce que nous avions vécu nous-mêmes dans cet enseignement primaire, ce contenu de l'enseignement est tout à fait véhiculant un contenu moralisateur, des connaissances très tournées vers le passé, vers la vie des grands hommes, la vie du peuple, et je dirais même aujourd'hui où les problèmes du tiers-monde sont fort importants, la vie des peuples dans leur ensemble n'est pas ce qui est développé à l'école.
L'école n'a pas été faite pour eux, l'école n'a pas été faite pour les travailleurs, et l'école n'a pas été faite pour les bourgeois, et quoi qu'on en dise, et bien ça continue comme ça.
Ces jeunes que l'on traite d'échoués, hein, ces jeunes de l'échec scolaire, ce sont nos enfants. Et c'est pour ça que dans une organisation comme la nôtre, et de plus en plus même dans les syndicats professionnels, on s'interroge sur le problème de cette scolarité, non pas sur le principe de la scolarité prolongée, mais sur finalement qu'est-ce que c'est que cette école, qu'est-ce que c'est que ce système éducatif, qu'est-ce qui se passe au fond pour que finalement ces enfants aient une scolarité aussi négative. Et je dois dire que dans ma propre organisation, nous avons été extrêmement concernés par ce pourquoi tant d'enfants en difficulté dans l'école, pourquoi ces enfants toujours dans le même milieu social. Et cela nous a amené nous-mêmes très profondément à faire le lien entre l'exploitation que nous ressentons comme travailleurs dans les entreprises, comme les difficultés de vie que rencontrent les familles de travailleurs sur le plan du logement, sur le plan de la vie culturelle, sur le plan du loisir, sur le plan des congés, et finalement la condition de vie de nos enfants dans l'école actuelle. Ce qui nous frappe d'ailleurs comme une contradiction très importante, c'est que dans un quartier où tel et tel enfant est étiqueté de cette façon, quand on connaît et quand on voit la vie de cet enfant dans son quartier, un enfant très vivant, un enfant à qui sa famille confie des responsabilités, un enfant qui avec ses copains est animateur de jeux, de bandes, etc., il y a là une dissonance extrêmement importante et qui finalement a pour nous été très éclairante. Comment Didier, qui est, que l'on connaît dans le quartier pour faire des tas de choses, peut-il être cet enfant passif dont finalement l'école a très vite un jugement dévalorisant. Ce qui est dramatique, c'est que finalement tout ce qui est différence aujourd'hui, différence à ce qu'on attend de l'enfant dans un certain langage, différence au niveau de son expression, au niveau de son vécu, toutes ces différences sont ou ignorées ou au contraire considérées comme des infériorités et des occasions de lui imposer une scolarité courte si ce n'est pas un rejet. Nous refusons donc avec la dernière énergie que finalement les problèmes que l'on présente toujours comme des problèmes individuels, nous refusons qu'ils soient traités de cette façon et au nom de la classe sociale que nous représentons, nous refusons ce concept de handicap socioculturel dans lequel on veut nous enfermer.
Oui, il est vrai, Madame Simon, que votre fils est un très gentil garçon. Très gentil, toujours prêt à rendre service. Mais où je suis le plus inquiet, c'est au point de vue travail. Son maître m'en parlait l'autre jour. Il me disait qu'il n'écoute pas vraiment, qu'il ricane, qu'il fait des petits dessins. Je sais bien que le français est une matière moins importante pour lui que pour ses camarades filles. Néanmoins, je crois qu'il faut qu'il pense dès maintenant à son avenir. Et pour cela qu'il donne un grand coup de collier. Car il faut que votre petit Quentin passe en CM2-1 l'année prochaine. Car en CM2-2, il y aura tous les pires éléments, tous les perturbateurs que j'ai déjà à l'œil depuis le début de l'année. Et même depuis la préparatoire, car mes collègues de la maternelle me les signalent déjà. On les connaît très vite, vous savez. Et quand on les lâche à la fin, on peut déjà les signaler au commissariat.
Et vis-à-vis des violents, alors il appartient au gouvernement de choisir les moyens propres à les ramener à la raison ou, si ce n'est vraiment pas possible, à les mettre hors d'état de nuit.
Surtout quand t'apprends, quand t'as redoublé, ben, tu dis je suis pas forte, j'ai rien appris, je sais rien faire, et puis après.
C'est pas les échecs scolaires qui m'intéressent tellement, c'est les réussites scolaires, tu vois. Qui réussit et pourquoi les gens réussissent.
Fais dodo, cœur à mon petit frère. Fais dodo, mon petit loupio.
Rangez vos affaires.
T'auras plus tard ta limousine pour engraisser monsieur Peugeot. Alors t'achèteras de la benzine pour engraisser monsieur S.O. T'auras ton coin de serpolet. On t'y permettra les culbutes avec ta tente et ton duvet pour engraisser monsieur la hutte. Fais dodo, colle à mon petit frère. Fais dodo, mon petit loupio. T'auras beau crier les fachos et les canons, c'est dégueulasse. Un jour, pas de milliers d'eau qu'on te dira de prendre en chasse. Tu feras la guerre à ceux d'en face. Vous vous offrirez des pruneaux pour engraisser monsieur Douglas, pour engraisser monsieur Dassault.